Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes 2030. Presque d'un an après la parenthèse enchantée des Jeux de Paris 2024 qui ont commencé dans la noirceur et se sont transformés en 24 heures en un moment d'allégresse collective, la France a la chance unique, comme l'a déclaré la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, Marie Barzac, de pouvoir se projeter vers un nouveau projet exceptionnel, l'organisation des Alpes 2030. Et ces Jeux seront organisés pour la première fois, non pas sur une ville, mais sur deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et avec cinq villages olympiques prévus, Briançon, Nice, Beauzelle, La Plagne et La Clusaz. Et à 5 ans des Jeux, le projet de loi adopté en première lecture au Sénat ce mardi 24 juin suscite, comme tout grand événement de cette envergure, l'inquiétude d'associations environnementales, d'élus ou de collectifs citoyens. Parmi les mesures phares du texte, il s'agit par exemple de pouvoir accélérer les constructions, comme celle d'un village olympique et d'une patinoire à Nice, ou l'ambitieuse transformation en logement du Fort des Têtes de Briançon. Pour accueillir près de 1000 athlètes en 2030, les organisateurs ont prévu le Fort des Trois Têtes, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et où 150 logements seront rénovés tout en respectant l'architecture et les façades. À l'image du Fort des Têtes de Briançon, ces projets bénéficieront du permis à double état, un outil inspiré par les notaires du Grand Paris et déjà éprouvé sur le village des athlètes de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis pour sécuriser leur réalisation et leur héritage. Il y a encore l'article 26 qui vise à faciliter le recours au marché public de conception-réalisation pour les opérations de construction ou de réhabilitation. Où il y a également l'exemption des constructions des projets du décompte du zéro artificialisation net des sols, dispositif de lutte contre la bétonisation d'espaces naturels et agricoles qui a été voté malgré l'opposition du gouvernement. À la tête de la Solideo à Marseille, depuis mars dernier, Damien Robert, l'ancien patron d'INLI, filiale d'Action Logement, a désormais la lourde tâche de garantir et préparer l'héritage des villages olympiques afin de développer tout à la fois les capacités de l'hébergement touristique et le logement des travailleurs saisonniers et des logements abordables pour répondre aux besoins des populations locales. Le sénateur Union Centriste des Hautes-Alpes et rapporteur de la loi, Jean-Michel Arnaud, nous décrypte le projet de loi olympique des Alpes 2030.
Ces Jeux Alpes-Françaises 2030 devaient s'engager sur la base d'une loi qui cadre à la fois les questions de sécurité, les questions d'accélération des procédures pour la réalisation et la livraison des équipements olympiques et des équipements annexes, et évidemment la dimension aussi financière. C'est sur cette base-là que les JO peuvent ensuite se décliner avec notamment les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur qui signent les contrats hôtes avec le Comité international olympique. Donc c'était la première étape législative importante au Sénat. Il y aura une lecture à l'Assemblée nationale pour, j'espère, un texte définitivement voté par le Parlement français en tout début d'automne.
En matière de dérogation, procédure d'urbanisme et expropriation, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Le principe général est de faire en sorte de prendre en compte une caractéristique des Alpes françaises, de la montagne française, c'est l'impossibilité, les difficultés de faire des travaux en dehors de la période de mai à novembre. Donc on a non seulement peu de temps d'ici 2030, 5 ans, pour réaliser des équipements, c'est pas facile, c'est court, et de surcroît on a une contrainte climatique de haute montagne qui fait qu'on travaille en fait 5 mois dans l'année pour pouvoir réaliser et livrer des équipements. Sur cette base-là, des procédures qui respectent évidemment des phases de concertation, notamment avec la Commission nationale du débat public, la possibilité également de développer des consultations par voie électronique sur les procédures de validation des différents équipements livrés, ont été mis en place pour faire en sorte de livrer à temps les équipements nécessaires. Et puis un volet également de facilitation, notamment sur la question du logement, qui est une question essentielle pour les Alpes françaises et pour les deux régions. Je rappelle que nous avons sur la région Auvergne-Rhône-Alpes quasiment 16% des logements, soit 500 000 logements, qui sont aujourd'hui classés F et G, donc qui ont vocation à sortir du marché. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la deuxième région organisatrice de ces JO de 2030, c'est de l'ordre de 7,8%, 200 000 logements. Donc on a 700 000 logements à accompagner pour les populations locales, pour les populations de saisonniers et pour les populations évidemment de résidences secondaires. À cet effet, dans l'article 20 de la loi qui a été votée en première lecture au Sénat. Nous avons la possibilité dans les départements hôtes de pouvoir expérimenter à la main des départements une opération de rénovation, restructuration d'un ensemble d'immeubles composés de résidences principales et résidences secondaires en couplant deux opérations que vos auditeurs connaissent bien, qui sont les opérations d'amélioration nationale de l'habitat, les fameuses politiques de l'ANA, avec les ORI, les opérations de rénovation de l'immobilier de loisirs, en un, donc deux opérations en une, pour essayer d'expérimenter et faire en sorte de trouver les clés, les outils permettant de débloquer des opérations immobilières qui aujourd'hui sont gelées par manque d'outils, par manque d'animation territoriale et par manque de moyens et d'engagement financier qui permettraient aux propriétaires, que ce soit des bailleurs sociaux, soit des propriétaires institutionnels ou des propriétaires de ménages, de débloquer leur envie ou d'avoir intérêt à agir pour rénover leur logement et les remettre sur le marché. Donc c'est aussi ça, de mon point de vue, un des éléments sur lesquels on travaille en termes d'héritage des jeux, faire en sorte de trouver des solutions pour les logements et débloquer ces logements pour la politique de montagne et pour héberger à la fois des résidents secondaires, mais surtout des résidents permanents dans nos Alpes françaises.
Sur l'héritage, vous voulez recopier ce qui a été fait pour Paris 2024 ?
On ne peut pas recopier texto l'expérience des JO 2024, mais on est dans cet esprit. Faire en sorte que dans les Alpes françaises, sur un territoire vaste, de toute la chaîne des Alpes françaises, faire en sorte qu'on ait un héritage en termes de mobilité, donc notamment sur la vallée de la Durance entre Marseille et Briançon, un grand programme porté par la région, porté par la SNCF, de rénovation des matériels roulants, notamment des matériels de lignes de chemin de fer de nuit, du train de nuit, mais aussi d'infrastructures. Plusieurs centaines de millions d'euros vont être investis sur les 5 prochaines années à cet effet. Faire en sorte aussi, dans la mesure où dans les Alpes françaises, les Savoies avaient bénéficié des aménagements d'Albertville en 1992, ce n'est pas le cas des Alpes du Sud, donc remettre en niveau de sécurité la route nationale 94 entre Gap et la frontière de Montgenèvre, la frontière italienne, mais également la route départementale 942. Et à cet effet, le département et l'État mobiliseront également des financements sur le réseau de routes, parce que derrière l'aménagement pour les Jeux Olympiques de 2030, ces routes servent aussi à la desserte pour la vie économique du quotidien des territoires de montagne, et c'est important.
Avec l'outil du permis à double état, en quoi l'article 17 va sécuriser la réalisation et l'héritage des projets ?
C'est un des héritages, cette procédure de permis à double état de 2024 des Jeux Olympiques de Paris. J'ai eu le plaisir, la curiosité et un grand intérêt à visiter le village olympique de Saint-Ouen, Saint-Denis à Paris. Ce principe de permis à double état avait permis d'emmener à la fois des opérateurs sociaux mais aussi des promoteurs classiques à construire le village olympique avec un permis pour cette première fonction, puisqu'un permis est accordé pour une destination, donc la destination première état de permis, le village olympique, et concomitamment, dès la phase de dépôt du premier permis, un deuxième permis concomitant accordé, double état, pour la transformation durable et la mise à disposition à l'issue de travaux de réadaptation post-Jeux Olympiques de logements sociaux, de logements d'accession à la propriété, et de faire en sorte ainsi de pouvoir faciliter les procédures et d'avoir surtout une visibilité, une lisibilité, une vision économique et financière pour les promoteurs, puisqu'ils savent qu'ils ont à la fois un premier client, la Solideo, avec la livraison des équipements olympiques, et de futurs clients qui vont aller chercher, d'où la nécessité d'avoir une qualité et la possibilité ensuite de vendre et de mettre en marché des logements à l'issue des Jeux Olympiques. Et je crois que si on parle d'héritage, l'héritage le plus symbolique, le plus fort, est certainement pour les Jeux Olympiques de Paris, celui-ci. Et puis un troisième héritage, si vous me permettez, c'est mettre un focus aussi pour les Alpes françaises sur la montagne. Donc c'est aussi un focus pour toute la montagne française, et démontrer à nos clients, à celles et ceux qui mettent en marché l'offre touristique et les paysages de montagne française, que la montagne, non seulement ça nous gagne, mais ça peut être aussi un élément fort pour diversifier l'offre touristique de la première destination au monde, qui est la France, en matière touristique.
Sur le fort de tête à Briançon, qui prévoit 160 logements, à partir de quand les promoteurs vont pouvoir se positionner ?
Il y a déjà un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours, donc je crois comprendre qu'un certain nombre de groupements d'entreprises sont en train de réfléchir, à la fois sur le fort Fort des Têtes, mais également sur un autre bâtiment qui est au pied de Briançon, qui est le bâtiment de la Chape. Donc sur ces deux bâtiments, des promoteurs sont en train de réfléchir, des opérateurs sont en train de réfléchir et feront, je pense, des propositions à la Solideo, c'est une maîtrise d'ouvrage Solideo, dans les prochaines semaines, avec comme objectif, puisque le sablier est déjà en route, on a des délais relativement courts, d'avoir, je pense, une attribution après l'analyse de ces offres, je pense en fin d'année, pour que ensuite puissent être mis en place les procédures évidemment classiques de concertation, de demande d'autorisation, et évidemment que tous les intérêts puissent se manifester et que, y compris les citoyens, puissent marquer leur intérêt ou leur désintérêt ou leurs observations sur les projets qui seront ainsi portés sur Briançon.
Sur le zéro artificialisation nette des sols, quelle est votre approche ? Et que répondez-vous à la gauche ?
Il a été proposé dans le cadre de ce texte par amendement parlementaire la possibilité de sortir là où c'est nécessaire, uniquement là où c'est nécessaire. L'impact que pourrait avoir, c'est pas le cas du Briançonnais parce qu'il n'y a pas de consommation, notamment pour la construction de bâtiments, ne serait-ce que d'un mètre carré non artificialisé aujourd'hui. Mais ça peut être le cas en Savoie et Haute-Savoie. On se retrouve dans une situation où on est sur la marge du trait. Il est évalué un impact en artificialisation nette sur l'ensemble du projet. Une vingtaine d'hectares sur l'ensemble du projet, ce qui est relativement peu au vu de l'impact que peuvent avoir les Jeux Olympiques positivement en termes de développement économique. La ministre a indiqué dans sa réponse aux parlementaires hier au sein de l'hémicycle que cela pouvait aussi entrer dans les marges d'appréciation territoriale des grosses enveloppes dans les SCOT, dans les SRADET, et que pour elle, légiférer sur ce sujet n'était pas forcément nécessaire. On verra comment prospère cet amendement dans la double lecture et à la lecture à l'Assemblée nationale, mais je crois vraiment que ce n'est pas le sujet principal des JO. Vous savez, si les JO ont lieu dans les Alpes, on a l'héritage d'Albertville. Sur la côte, côté Nice, on a déjà une urbanisation importante. Et dans les Hautes-Alpes, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'artificialisation nette qui est produite, qui est demandée à l'occasion de ces JO pour la création de bâtiments, puisqu'on réhabilite des bâtiments historiques anciens pour accueillir le village olympique et qu'on a la plus grosse offre de résidents secondaires par rapport à la population permanente de tous les départements français, c'est les Hautes-Alpes. Donc on n'a pas à construire des programmes et donc on a été pris l'engagement de JO propre, sobre et protecteur de l'environnement. On essaie de se tenir sur cette ligne-là et je pense que les évaluations qui seront faites par les ONG, mais aussi par la Cour des comptes et par un certain nombre d'inspections vérifieront dans la durée pour la préparation, mais après, en termes d'héritage, vérifieront effectivement cette feuille de route qui est une feuille de route fixée par les deux présidents de région et auxquelles évidemment les populations locales tiennent et se manifesteront, je n'en doute pas, s'il devait y avoir une dérive ou un à côté.
Désormais, quelle est la prochaine étape législative ?
Le texte projet de loi olympique a été voté à la quasi-unanimité, hormis le groupe écologiste au Sénat qui a voté contre ce texte.
Pourquoi ?
Bah, vous leur demanderez. Donc il est transmis à l'Assemblée nationale qui en fera une lecture en procédure accélérée en septembre. Et je pense que si tout va bien, on devrait avoir une commission mixte paritaire avant le vote du projet de loi de finances 2026, qui est un rendez-vous politique difficile, compliqué et hypothétique encore en matière de durabilité du gouvernement. Donc pour faire en sorte que avant le vote du budget 2026, cette question législative de la préparation des JO 2030 soit définitivement actée et votée par le Parlement pour qu'ensuite on puisse travailler dans les travaux d'Hercule à réaliser.
Justement, pour terminer, l'enveloppe budgétaire a été évoquée hier.
Oui, on a un débat sur ce sujet qui n'est pas totalement stabilisé puisque on a des échelles entre, ça dépend de ce que l'on met dans l'enveloppe, mais entre 1,9 milliard d'euros et 2,4 milliards selon l'inspection générale des finances. Je pense que cette différence tient à la difficulté que nous avons aujourd'hui à fixer la carte des sites qui n'est pas encore totalement stabilisée et deux, à faire mouliner les différents projets, monter les appels d'offres et avoir évidemment des chiffres plus consolidé. C'est la raison pour laquelle, sur l'article 5 de ce projet de loi de finances, le Sénat a décidé de retirer la participation financière, la faculté de participation financière des deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, et on aura cette discussion plus consolidée à l'issue du travail financier qui se réalisera durant l'été, les discussions interministérielles, les discussions avec les grandes régions d'ici l'automne. Et je pense que cette affaire-là sera réglée définitivement en lecture. futures, peut-être même en commission mixte paritaire, éclairée par le travail qui reste encore à faire.
Dans le contexte économique incertain, le flou budgétaire de ces Jeux préoccupe déjà la Chambre haute, qui a déjà supprimé l'article 5 du projet de loi, prévoyant que les régions hautes apportent une garantie financière en cas de solde déficitaire du comité d'organisation. Elle a jugé que l'article est prématuré en raison de prévisions de déficit inaboutis. Avant que le projet de loi soit examiné, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, à la rentrée, le sénateur centriste des Hautes-Alpes, rapporteur du projet de loi, Jean-Michel Arnaud, prévient déjà. Les Jeux olympiques d'hiver ont plus de risques d'être déficitaires que les Jeux olympiques d'été. On l'a compris, la pression monte d'un cran au moment où les cartes des sites n'a toujours pas été dévoilée par Edgar Groupiron, patron des Jobs 2030, et les dernières déclarations vendredi dernier de François Bayrou sur sa volonté de tenir les dépenses à l'euro près. C'est donc un objectif de plus en plus ambitieux.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.